Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Au sommaire de ce journal, le retrait de la MONUSCO de la RDC, les chronogrammes est déjà établi et adopté par le Conseil de sécurité des Nations Unies et il ne reste plus que soit gagner les paris des modèles réussis des retraits. C'est en ces mots que s'est exprimé le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, lors d'une conférence de presse MONUSCO-RDC ce samedi à l'hôtel du gouvernement ici à Kinshasa. Inondation dans quelques provinces de la RDC, le président Félix-Antoine Tshisekedi instruit les gouvernements à prendre toutes les mesures pour garantir une prise en charge de la population victime. C'était lors du Conseil des ministres ce vendredi. L'invité de ce journal est le professeur Dr Kaindo Muhesi, secrétaire général à la recherche de l'Institut supérieur du commerce ISC Goma. Il fait ses analyses sur la tension actuelle entre les Burundis et les Rwandais qui a évolué jusqu'à la fermeture par les Burundis depuis jeudi de toutes ses frontières terrestres avec les Rwandais. Il ne peut plus y avoir un débat quelconque sur les principes du retrait de la MONUSCO de la RDC et il ne faut pas non plus avoir la précipitation inconsidérée. Ainsi s'est exprimé le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, au cours de la conférence de presse conjointe MONUSCO-RDC sur les désengagements total de la MONUSCO ce samedi 13 janvier 2024 à l'hôtel du gouvernement ici à Kinshasa. Pour Christophe Lutundula, les chronogrammes est déjà établi et adopté par les conseils de sécurité des Nations Unies. Il ne reste plus que soit gagné les paris des modèles réussis des retraits. On écoute Christophe Lutundula dans cet extrait que nous propose Jacques-Yves Molima.
Il faut relever et souligner avec force qu'il ne peut plus y avoir un débat quelconque sur le principe du retrait de la MONUSCO. Il ne peut plus y avoir des atermoiements, comme disait le roi Baudouin, parce que nous sommes à Kinshasa, funeste, il ne faut pas non plus avoir la précipitation inconsidérée. Et ça, c'est la règle que nous avons observée de part et d'autre pour que nous puissions réussir cette entreprise qui ne manque pas de délicatesse et des zones à haut risque qu'il faut éviter avec sagesse et encore une fois avec responsabilité pour que, comme l'a dit le président Tshisekedi à la tribune des Nations Unies, je me rappelle le 21 septembre, le retrait de la MONUSCO de la RDC soit un modèle réussi de retrait d'une force des Nations Unies qui est déployée dans un pays pour y restaurer la paix et promouvoir les principes universels, les valeurs de démocratie, état de droit et le développement partagé dans ces pays-là.
Pour sa part, la représentante du secrétaire général des Nations Unies en RDC est revenue sur les séquençages de ses désengagements de la RDC. Madame Bintou Keïta a fait savoir que tous les 3 mois, une évaluation de ses retraits sera faite à toutes les parties prenantes. Bintou Keïta dans cet extrait choisi par Jacques-Yves Molima.
Nous sommes en train de travailler avec la force, avec les FRDC, la PNC, et tous les autres au niveau de la partie gouvernementale et aussi des Nations Unies, pour que les troupes de la MONUSCO soient parties le 30 avril du Sud-Kivu. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les FRDC et la PNC vont renforcer leur présence dans le Sud-Kivu, et notamment dans les endroits où nous avons les personnes déplacées internes, qui pour le moment sont avec la responsabilité des casques bleus. Donc au 1er mai, la MONUSCO va se focaliser sur le Nord Kivu et l'Ituri, pour ce qui concerne la protection des civils. Ensuite, pour ce qui concerne la fermeture effective du Sud Kivu, ça sera le 30 juin 2024. Et le 30 juin 2024, le Conseil de sécurité attend une évaluation politique, stratégique et opérationnelle de comment s'est passée la première phase du désengagement de la MONUSCO du Sud-Kivu. Mais entre-temps, il y a un principe que nous avons agréé avec son Excellence et les équipes, c'est que tous les 3 mois, nous allons faire une évaluation de l'état des lieux, de comment nous sommes en train de mettre en œuvre ce plan de désengagement. Nous devons en même temps préparer les phases subséquentes, donc la phase 2 qui est le Nord-Kivu et la phase 3 après qui est aussi le retrait de l'Ituri.
Rendons-nous à présent à Lubumbashi, où l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux, UDPS, a organisé ce vendredi une marche dite de l'unité. À l'issue de cette manifestation, les responsables de ces partis politiques appelaient à tous à la cohabitation pacifique et au vivre ensemble. Jean Gandou.
Partis de leur siège au centre-ville de Lubumbashi, les membres de l'UDPS ont arpenté la chaussée Laurent-Désiré Kabila, les avenues Lumumba, Tabora, Kasavubu, avant de se retrouver une fois de plus sur chaussée Laurent-Désiré Kabila et chuté par leur siège situé sur l'avenue Sendoué, non loin de la grande place de la Poste. Tous des blancs vêtus pour la plupart, avec des t-shirts frappés de l'effigie du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Ils arboraient des calicots portant des messages tels « Le caucus de cadre de l'UDPS, Grand Katanga, appelle les communautés à la cohabitation pacifique pour le développement harmonieux de la République démocratique du Congo. » Pour Michel Kaboué, un autre cadre du parti, « Tout citoyen a le droit de s'installer où il veut et d'adhérer au parti politique de son choix. La province n'appartient à personne. » Dans leur déclaration, les manifestants ont affirmé à travers Fabien Moutombe, un autre leader de ce parti présidentiel, que
« Nous nous engageons à œuvrer inlassablement pour promouvoir la culture de la paix entre toutes les communautés vivant dans l'espace Grand Katanga et exhortons celles-ci à vivre en harmonie en vue de consolider les acquis.
Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Okapi.
Je l'ai dit au sommaire, le président Félix-Antoine Tshisekedi a instruit ce vendredi 12 janvier en Conseil des ministres les gouvernements à prendre toutes les mesures pour garantir une prise en charge de la population victime des inondations, mais aussi d'assurer une veille pour prévenir la possible apparition d'épidémies dans les zones touchées. D'autres détails avec vous, Jacques-Yves Molima.
Cette crue exceptionnelle du fleuve Congo qui est à la base de ces inondations a touché plusieurs provinces, une quinzaine de la RDC, dont Kinshasa, la Tchopo, la Mongala, l'Équateur, le Congo central, le Kasaï ou encore le Kwilu. Pour le porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya, le chef de l'État a déploré que cette situation cause d'innombrables drames au rang desquels des pertes en vies humaines, des champs dévastés, des routes coupées, des maisons inondées, des glissements de terrain ou encore des écroulements des murs. Même s'il rassure sur l'effectivité de la décrue du fleuve Congo qui a commencé depuis jeudi 11 janvier, le président de la République reste convaincu que celle-ci pourra prendre du temps avant d'être complètement terminée et compte tenu des sinistres observés, Patrick Muyaya note, je cite, qu'il revient de redoubler la vigilance sur les possibles conséquences, notamment sanitaires, liées aux 10 dégâts. Ces inondations constatées à travers la République ont provoqué au moins 300 pertes en vies humaines. En outre, plus de 43 000 maisons se sont écroulées, 1325 écoles détruites, des centres de santé touchés, des marchés publics affectés et des routes devenues impraticables, selon les données fournies par le ministère des Affaires sociales, des actions humanitaires et solidaires. Nationale de la République démocratique du Congo.
En Ituri, trois rebelles des ADF neutralisés, d'autres blessés et plusieurs armes ainsi que des munitions de guerre récupérées. Tel est le bilan des opérations en cours que mène le FRDC dans les villages de Tolitoli et Mekanya, deux entités de la chefferie des Babila-Bakwanza dans le territoire de Mambasa. Saluant les efforts des forces de sécurité, la société civile souhaite que la traque de ces rebelles soit intensifiée dans la profondeur où l'ennemi cherche à se réorganiser. Martial qui
C'est depuis mercredi dernier que l'armée est à la poursuite des ADF dans la chefferie de Babila-Bakwanza où l'ennemi voulait se réorganiser pour commettre les exactions contre les civils. Le lieutenant Gilles Ngongo, porte-parole de l'armée à Ituri, indique que l'objectif est de pourchasser ces rebelles et ses collaborateurs dans cette région pour permettre à la population de fréquenter de nouveau leur village et effectuer leurs activités champêtres.
Nous sollicitons une fois de plus la collaboration de la population et de ses désolidariser de ces renégats.
Pour la nouvelle société civile congolaise de Mambasa qui suit de près ces opérations, c'est un ouf de soulagement pour la population qui commence à retourner dans leur milieu respectif depuis le début de cette année. Elle encourage le FRDC à poursuivre la traque de l'ennemi jusqu'à son dernier retranchement.
Il y a lieu vraiment qu'on parle du positif. Parce que le temps passé, la population a vidé même les villages qui sont sur la route. Mais actuellement, on commence à rencontrer des gens qui retournent dans des villages.
Notons par ailleurs que du côté du site de Dirobo, sur l'axe Komandaluna, les FRDC et l'armée ougandaise bombardent depuis le début de cette année plusieurs positions de rebelles des ADF dans la chefferie de Walese Vokutu. Bounia, Martial Kizabiamungu, Radio Okapi.
Vous le savez, le Burundi a fermé le jeudi ses frontières avec le Rwanda. Si cette fermeture n'entraîne pas des répercussions économiques immédiates pour la RDC, elle peut cependant avoir quelques impacts sur la vie des habitants de Goma et des Bukavu, estime David Katumbi, opérateur économique du Nord Kivu, au micro de Denise Lukeso.
Au niveau de Goma, sur le plan économique, ça n'aura pas vraiment un impact puisque le trafic n'est pas vraiment intense, peut-être avec des ambulants, mais les opérateurs économiques ne s'approvisionnent pratiquement pas par le Burundi. Maintenant, ce qui peut causer un problème peut-être, ce sont les gens qui vont se faire soigner à Kira Hospital, puisque nous utilisons toujours cette voie-là pour aller se faire soigner, un contrôle. Mais dire que ça va avoir vraiment un impact sur le plan économique, non. Mais peut-être sur le plan sanitaire. Puisque si vous devez quitter Goma et prendre le bateau jusqu'à Bukavu, si vous devez prendre la route qui vous amène vers Bujumbura, vous devez encore emprunter une partie du Rwanda. Donc là, ça va être maintenant à vos risques et périls de prendre la route Ngomo. Puisque c'est une route qui n'est pas vraiment très bien entretenu, donc c'est ce qui peut créer un problème au niveau sanitaire. Mais sur le plan économique, je ne vois pas vraiment un impact immédiat avec Goma.
Autre chose, il y a un an, un incendie d'origine inconnue s'est déclaré au marché des Mayangose dans la ville de Beni, réduisant ainsi en cendres toutes les marchandises qui s'y trouvaient. Les marchands inconsolables avaient enregistré d'énormes pertes. Aujourd'hui, ces marchands qui ont fait preuve de résilience se relèvent et relancent leurs activités grâce aux cotisations de leurs associations et des crédits pris au sein des banques. Noëlla Kasuna et Blaise Makassi les ont rencontrés, suivez leur reportage.
Au marché de Mayangose, la vie reprend une année après le drame qui a traumatisé les marchands. Les femmes, principales occupantes du marché, vendent légumes, pommes de terre, poissons secs salés, poissons frais, haricots. Bref, les produits jadis calcinés ont été remplacés. Les moyens pour relancer ces activités sont venus de sources différentes. Certains marchands ont bénéficié des aides des associations dont ils sont membres, d'autres ont contracté des crédits auprès des banques, d'autres encore ont compté sur la compassion des personnes de bonne volonté, comme l'indique Sylvain Katembo. Ces petits commerçants qui comptaient sur l'aide du gouvernement n'ont rien vu venir. En revanche, pour occuper les dépôts nouvellement construits, ils sont contraints de débourser jusqu'à 650 dollars américains. Fonds qu'ils sont incapables de réunir, dénonce Astrid Mwangaza.
Après la reconstruction des dépôts, on nous a informé qu'on devrait payer 650 dollars chacun. Si quelqu'un paye entre 300 et 450 dollars, les recouvreurs l'amènent au bureau de la police pour finir la dite dette auprès de la police.
C'était le 12 janvier 2023, un incendie d'origine inconnue avait ravagé le marché Mayangose à Béniville, réduisant ainsi en cendres toutes les marchandises qui s'y trouvaient. Ceux qui n'ont pas pu reconstituer les fonds perdus sont restés définitivement à la maison, témoignent ceux qui ont repris le commerce.
Toujours à Beni, ceux qui achètent régulièrement la pomme de terre dans les marchés de la ville de Beni sont obligés de revoir à la hausse les contenus de leur porte-monnaie avant de s'y rendre au marché. En effet, depuis le début de cette année, la mesure du bassin est jadis vendue entre 800 et 1500 francs congolais selon la qualité. Se négocie aujourd'hui à 2000 voire 2500 francs congolais au marché des Mayangose. Blaise Makassi nous explique les raisons de cette hausse dans ses reportages.
Cette hausse du prix de la pomme de terre est causée par la rareté de ces produits. Rareté due à l'acheminement simultané par des agriculteurs de leurs produits vers les grandes agglomérations à la fin de l'année dernière. À ces jours, les agriculteurs attendent les prochaines récoltes pour satisfaire le besoin toujours croissant des consommateurs. C'est ce qu'explique Mouindo Chuma Diallo, vendeur de pommes de terre au marché de Mayangose.
La hausse du prix est premièrement due au fait que durant les fêtes, les cultivateurs ont fait la récolte de tous leurs produits afin de leur permettre aussi de passer cette période. Après, il faut laisser les produits croître avant la récolte, ce qui occasionne la carence et la hausse du prix. Avant, les pommes de terre appelées Carolis se vendaient à 1000 francs, celui appelé Kini qui à 800 francs, Nguruza à 600 ou encore Mwezi à 500 francs. Mais aujourd'hui, le Karoli se négocie à 2500 francs et 2000 francs pour Kiniki et les autres se négocient à 1800 francs. Les taux d'échange ne nous aident pas non plus.
Cette situation pénalise les marchands de pommes de terre, les consommateurs, mais aussi des familles des agriculteurs qui dépendent essentiellement de la vente de ces produits.
Actualité internationale. Le Cap-Vert est le troisième pays d'Afrique à éradiquer le paludisme. L'OMS l'a certifié vendredi 12 janvier. Le Cap-Vert est désormais exempt de cette maladie qui continue de faire des ravages sur les continents. L'Organisation mondiale de la santé y voit là un succès significatif en matière de santé globale. Cet archipel de l'océan Atlantique avait déjà éradiqué la maladie à deux reprises, en 1967 et en 1983. Mais selon l'OMS, des erreurs ultérieures avaient conduit à son retour. Le pays a obtenu la certification de l'OMS car il a fourni la preuve que la chaîne de transmission domestique par les moustiques avait été interrompue à l'échelle nationale depuis 3 ans.
L'invité.
Nous recevons comme invité le professeur Dr Kaindo Muhesi, secrétaire général à la recherche de l'Institut supérieur du commerce ISC Goma. Il fait ses analyses sur la tension actuelle entre les Burundi et les Rwanda qui a évolué jusqu'à la fermeture par le Burundi depuis jeudi de toutes ses frontières terrestres avec les Rwanda. Quelle pourrait être une solution en faveur d'une désescalade pour toute la sous-région? Professeur Augustin Kaindo Muhesi répond dans cet entretien accordé à Bernard Nyangi.
Professeur Kaindo Muhesi, bonjour.
Bonjour.
Avec l'évolution de la situation, est-ce que on peut craindre que la dégradation des relations entre le Burundi et le Rwanda ait des impacts sur notre région, ici surtout le Nord Kivu?
Oui, en fait, la crainte est fondée parce que en relation internationale, lorsqu'un État a des amis, il y a justement une relation d'amitié qui s'élargit. Mais le contraire, lorsqu'il y a l'inimitié qui se crée entre les États, cela embrase aussi toute la coalition. Nous savons tous que le Congo est dans une coopération militaire avec le Burundi. Ce qui veut dire que la conflictualité qui monte entre le Burundi et les Rwanda affecte aussi l'allié du Burundi qui est le Congo, surtout que il est prouvé que le Rwanda soutient le M23. Et que, de part et d'autre, il y a des groupes armés, soit que le Rwanda serait en train de soutenir pour insécuriser les Burundi, mais il y aurait aussi des groupes armés que le Congo serait en train de traquer avec le Burundi pour essayer de sécuriser la région. Et donc, le moment va être celui de la consolidation des coalitions. La coalition RDC-Burundi contre le Rwanda, mais aussi, il n'est pas exclu que d'autres acteurs soutiennent le Rwanda dans sa conquête de leadership régional et le rapport de force va aller dans un sens tout comme dans un autre.
À cela maintenant, on peut craindre que le conflit entre les deux pays se règle sur le territoire congolais.
Oui, la RDC a toujours considéré par beaucoup d'auteurs comme les ventre mou de la République, donc les maillots faibles, puisqu'il y a beaucoup de zones grises et beaucoup de groupes armés qui opèrent et qui peuvent être manipulés par soit le Rwanda ou même par d'autres pays voisins. Et donc, ça peut arriver effectivement que ça soit les Congos qui payent les frais de cette situation qui est en train de se développer, surtout que le Congo vit déjà une situation de fragilité sécuritaire. Le Rwanda cherchera peut-être à instrumentaliser certains groupes armés ou à les renforcer pour davantage asphyxier le Burundi. Et dans ce contexte, le Burundi aussi va chercher justement à se défendre et malheureusement, ça peut se passer sur le sol congolais.
C'est de ça dont vous parlez, d'une crise aussi de leadership et au sein de la région pour intervenir et peut-être étouffer, éteindre ce feu avant qu'il ne se développe.
Ah oui, cette approche par le leadership, c'est une approche, à mon avis, fertile, puisqu'on peut remarquer que finalement, dans la sous-région des Grands Lacs, à la suite de la mort de Mobutu, il y a eu un problème au niveau de la recomposition sous-régionale, un problème de leadership à telle enseigne que, par moment, c'est soit l'Ouganda et les Rwanda qui ont soutenu l'AFDEL, et là ils avaient des intérêts communs, même s'ils se sont déchirés à Kisangani. Et donc ce qui se passe aujourd'hui entre le Burundi et le Rwanda, c'est une reproduction de ce qui s'est passé il n'y a pas longtemps entre le Rwanda et l'Ouganda. Et donc, dans cette crise de leadership, j'ai comme l'impression que le Rwanda a toujours cherché à imposer son leadership, malheureusement en recourant à des moyens de conquête armée, et il n'y a pas finalement un centre de décision, un pouvoir fédérateur qui peut essayer d'aider les États à parler le même langage. Dans tous ces pays de la sous-région des Kala, il y a des régimes qui ne sont pas vraiment proprement démocratiques. Et c'est absolument un défi pour la paix et la stabilité de la sous-région. Et là, c'est désordre. Il y a effectivement le recours parfois à des forces régionales, comme la force de la SADC qui arrive, mais qui ne peuvent pas résoudre de manière significative, en fait, toutes les racines du conflit, parce qu'elles sont localisables au niveau social, au niveau politique et au niveau de la géoéconomie de la sous-région de Kralak. Et donc, l'espace sous-régional, c'est un espace à recomposer avec de nouveaux leaders et des
votes. C'est une piste de solution que vous proposez.
Voilà un peu des pistes de solution. Il faudrait aussi une organisation sous-régionale capable de fédérer les différents acteurs, puisque on s'est rendu compte qu'avec la CPGL, c'est dépassé complètement, et même avec la communauté des États d'Afrique de l'Est aussi, on a vu la première expérience de la force régionale. Cette force n'a pas produit les résultats escomptés.
Professeur Kaindo Mwesi, merci.
Merci.
Ce journal est terminé. Madame, Messieurs, Dieudonné Nyangassa a assuré sa mise en onde, supervision et coordination, Noëlla Luzitu et Jacques-Yves Molima. À la présentation, Patience Ngalula Banangue. À toutes et à tous, merci de l'avoir suivi.